mais je vais quand même vous affiché une image qui est dans tous les livres d'histoire sur la Saint-Barthélemy. Je ne vais pas parler longuement des guerres de religion, mais simplement résumer un petit peu ce qui s'est passé pour l'histoire de l'Église à cette époque-là. Et ces guerres de religion, finalement, elles sont une série de 8 conflits sanglants qui ont déchiré le royaume de France entre 1562 et 1598. Alors, pendant toute cette période, ce sont des guerres, des batailles, des massacres, toutes sortes de pièges, etc., qui vont durer pendant environ 36 ans. Et on est vraiment loin de la bonne nouvelle de l'Évangile pendant cette période-là. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette période de l'histoire. Vous avez dans votre fond de cours voilà, les éléments principaux. J'ai essayé de vous les résumer et je ne vais pas prendre trop de temps si ce n'est de faire le bilan de ce massacre de la Saint-Barthélemy. Le bilan, c'est que pendant 3 jours à Paris, il y a environ 3000 à 4000 morts. Avant que cet événement s'étende aussi partout en France, dans les provinces. Et si vous suivez dans le fond de course, on est à la page 42. À la page 42, et on se retrouve avec un chiffre autour de 10 000 morts au total. Ce bilan, pour la France, il est lourd parce que donc on a des centaines de milliers de morts. Mais surtout, le pays est ruiné. Il faut se replonger dans la situation de l'époque. Les campagnes sont dévastées. Et ces guerres ont paradoxalement renforcé l'idée de l'absolutisme. Donc, à nouveau, on s'éloigne de l'Évangile. Et pour éviter le chaos, beaucoup de Français, c'est ça qui est contradictoire, beaucoup de Français vont accepter le retour à un pouvoir royal très fort. Ils vont l'accepter, du fait de ces guerres, de ce chaos qui existait en France à cette époque-là. Et ils vont accepter qu'on leur impose l'ordre au-dessus de tout, au-dessus des factions religieuses. Donc il y a une date très importante, c'est 1685, parce que sous Louis XIV, la politique va devenir justement à nouveau très répressive à l'égard des protestants. On appelle cette période la période des dragonnades. Alors, très rapidement, les conséquences de la réforme. Alors ça, c'est important d'en parler, mais rapidement. Les conséquences de la réforme, c'est surtout qu'il y a un retour à la Bible, un retour aux vérités de l'Évangile. Le système catholique romain est vraiment ébranlé pendant cette période avec la réforme. La notion d'église biblique est remise en valeur. La vie familiale est remise en valeur aussi. Les serviteurs de Dieu peuvent montrer l'exemple d'une vie de famille chrétienne. C'est l'exemple de Martin Luther et de sa femme Katharina, avec leurs enfants, qui est un magnifique exemple. Le célibat, qui était obligatoire du clergé catholique, n'est plus un signe de consécration ou de spiritualité. Donc il y a vraiment un changement de mentalité. Le travail est remis en valeur. Parce que les réformés sont des travailleurs, sont des gens qui sont reconnus pour être âpres à la tâche, qui sont fidèles. Il y a aussi, grâce à la réforme, un idéal de fraternité entre les classes sociales qui va apparaître. Parce que voulant mettre en pratique les évangiles, on essaie d'aider les pauvres, on essaie d'aider les vieillards, les malades, etc. Il y a un esprit de bienfaisance, de libéralité qui va entraîner un développement considérable des œuvres charitables pendant cette période. L'honnêteté, c'est un des fruits reconnus caractéristiques de la réforme. L'honnêteté, le respect de la parole donnée. On cherchait vraiment, absolument, quand on avait une entreprise ou quelque chose, un commerce, à traiter avec les protestants, avec les huguenots, parce qu'on connaissait leur droiture, ils étaient réputés pour leur honnêteté. En affaires. L'épargne se développe parce que les gens de la réforme, ils sont attachés à leur travail, ils sont consciencieux, honnêtes. Donc on va voir ces pratiques qui vont être mises en valeur. Les réformés vont prospérer, vont épargner. Avec la réforme, on voit le développement important de l'industrie et du commerce, le travail, la confiance, l'épargne. Tout cela se développe pendant cette période-là et produit un essor, un développement des industries et du commerce. Et puis surtout, les libertés fondamentales de l'homme commencent à être respectées. Liberté de conscience, liberté de croyance, liberté de pensée. Cet esprit de liberté va rentrer dans les universités, les collèges, dans tous les milieux scientifiques, intellectuels, et on va les appliquer dans le domaine de la médecine, des arts. Les savants, les chercheurs, les écrivains, tous ces artistes, ces spécialistes, les philosophes, les imprimeurs vont s'enfuir au moment des persécutions et vont aller dans les pays protestants. Et ces pays protestants vont devenir, comme on l'a vu pour Genève, des centres d'édition, des centres de recherche, des centres de développement intellectuel. Et je peux juste citer voilà, quelques personnes qui ont dû s'exiler pendant les guerres de religion, comme Robert Étienne, René Descartes, le philosophe Pierre Bayle, ou encore le philosophe Spinoza, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, et bien d'autres qui ont dû, pendant ces périodes tourmentées, voilà, quitter la France et qui ont été donc pour d'autres pays, voilà, vraiment formidables. La démocratie à cette époque-là commence à remplacer le pouvoir absolu. Les églises protestantes qui cherchent à former des gens, à former des responsables, des gens réfléchis, tout cela, ça va se répercuter sur le domaine social et politique. On voit aussi une formidable expansion de la démographie. La réforme a provoqué un retour du développement de l'économie en Europe. La pauvreté, la saleté, les famines ont disparu à la fin du Moyen-Âge et il en résulte une grande expansion de l'économie et de la démographie. Et Dieu va se servir de tout cela pour ouvrir des portes pour l'évangélisation. À côté de ces mouvements donc de réforme, portés par Luther, Calvin, et puis d'autres personnes qu'on a vues, qu'on a citées, s'est développée une réforme plus radicale. Et je voudrais parler un petit peu des anabaptistes. C'est un courant qui est célèbre et qui a été le plus persécuté au cours de son histoire. Le nom d'anabaptiste signifie « ceux qui rebaptisent ». Car ils considéraient que le baptême des enfants n'avait aucune valeur. Donc très tôt, ils ont commencé à poser des bases avec ce mouvement, et leur volonté n'était pas, comme Luther ou Calvin, de réformer, mais eux, leur pensée, c'était d'améliorer l'Église et de retourner à une Église biblique. Donc je vous ai mis quelques passages de leur article de foi. Mais ce qu'on peut vraiment retenir sur ces anabaptistes, c'est qu'ils enseignent la nécessité de la repentance, la foi personnelle en Jésus-Christ comme sauveur, le baptême d'eau par immersion. Ils vont vraiment organiser des assemblées où il règne une véritable discipline, selon les Saintes Écritures. Ces assemblées, elles vont connaître dès le début une magnifique onction du Saint-Esprit, une grande ouverture au don du Saint-Esprit et à la puissance de Dieu, avec le don des langues, l'interprétation des langues, des prophéties, des visions, des extases qui étaient fréquentes, des guérisons, des miracles et des manifestations hors normes du Saint-Esprit. Et ce mouvement refusait de prendre les armes, et bien sûr, il a été rejeté, il a été persécuté par toutes les églises qui s'appuyaient sur l'État. Des multitudes de chrétiens ont payé de leur vie par leur attachement à la doctrine apostolique et ils trouvèrent voilà, refuge souvent dans des assemblées anabaptistes. C'est un des mouvements qui a été parmi les plus persécutés de l'histoire. Et en même temps, ce fut aussi un de ceux qui eut les plus belles structures bibliques de la vie d'Église. Ce mouvement anabaptiste, on sait qu'il a préparé la venue d'autres mouvements Oui, les choses s'enchaînent. Les réformateurs qui ne sont pas allés jusqu'au bout, voilà, ils ont apporté quand même quelque chose. Et ces mouvements anabaptistes, eh bien, ils constituent en fait le point de départ des baptistes, du mouvement baptiste. Alors, dans notre région, ces communautés sont présentes. Et à partir de 1713, ils s'installèrent dans le pays de Montbéliard. Ils étaient accueillis par un prince, et ce fut l'époque de l'arrivée, entre autres, de quelques familles que peut-être vous connaissez, les familles Gréber, Wittmer, Rich, qui sont arrivées à cette époque-là. Et les anabaptistes donc, apportèrent un très bon témoignage dans la région. C'était d'excellents fermiers. Ils sélectionnèrent les bovins et amenèrent en particulier la création de la fameuse race montbéliarde en 1872. On retrouve ces assemblées un petit peu partout dans le monde. Elles sont nombreuses, elles se multiplient. On en rencontre en Europe, en Asie, en URSS, voilà, un petit peu partout dans le monde. Elles forment des assemblées qui sont nombreuses, en Afrique aussi, et jusqu'en Indonésie. Et ensuite, je ne parlerai pas des puritains, mais voilà, c'est aussi un mouvement qui s'est développé. Vous avez donc sur le fond de cour, en Angleterre, le mouvement qu'on appelait le puritanisme, qui est né de cette ardeur des protestants anglicans qui voulaient réformer l'Église et qui voulaient faire sortir de l'Église anglaise tout ce qui restait encore de catholicisme. Alors, non, le mouvement baptiste serait donc issu du mouvement anabaptiste. Je vous propose de parler un petit peu justement de ces baptistes et de son prédicateur John Bunyan, dont vous avez certainement entendu parler. Donc ces baptistes, ce sont des indépendants anglais qui, pendant ces temps de persécution, se sont réfugiés aux Pays-Bas. Ils avaient été donc au contact avec les anabaptistes et ils s'étaient souvent réunis dans les mêmes assemblées qu'eux. Ces chrétiens vont se séparer rapidement des indépendants. Ils avaient la même vision de l'Église locale, mais ils vont insister, eux, sur le baptême, d'où le nom baptiste. Ils vont insister sur le baptême des croyants par immersion, et ce furent donc les premiers que l'on appelle baptistes. Le baptisme se répandit donc en Amérique et bientôt à travers le monde entier. Je vous cite juste une figure qui est très particulière de cette époque, John Bunyan. Vous avez certainement entendu parler de son ouvrage qui s'appelle « Le voyage du pèlerin », qui fut publié en plusieurs parties, qui a été un livre d'évangélisation, d'édification, qui a aussi été inspiré, qui a inspiré des films, des dessins animés. Alors aujourd'hui, ces baptistes, ils sont répartis en de très nombreuses dénominations et assemblées à travers le monde. Parmi eux, on peut citer des ministères, des personnalités très connues qui sont issues du mouvement baptiste, comme Charles Spurgeon, ou encore Martin Luther King, ou encore Billy Graham, Jimmy Carter, ex-président des États-Unis. Alors, il y a encore d'autres mouvements, comme les fameux Quakers, rien à voir avec les céréales Quaker Oats. J'ai cherché pour savoir si il y avait un rapport, mais pas du tout. Donc là, on a un mouvement. Quaker, ça veut dire les trembleurs. Donc, ils ont été surnommés comme ça parce que voilà, ils manifestaient des mouvements de repentance et ils étaient souvent saisis de tremblements et on les a surnommés comme ça. Alors, je vais citer aussi un mouvement qui s'appelle le piétisme. Je ne fais que le citer parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à dire. Et c'est ce mouvement qu'on appelle le piétisme. Vous le trouverez dans votre fond de cours à la page 53. C'est un réveil qui a eu lieu au XVIIIe siècle. Donc là, on est vraiment à la fin de notre étude de l'histoire de l'Église pour aujourd'hui. Et ce mouvement de piétisme, c'est comme une sorte de rebond de la réforme qui ressurgit en Allemagne, où on va se rebaser à nouveau sur les principes des réunions chrétiennes de véritables croyants. Et à nouveau, ce mouvement, il insistait sur les réunions dans les maisons, sur les groupes de maisons, qui vont vraiment connaître un succès important. Ce mouvement de piétisme, il est né en Alsace, à Ribeauvillé, et avec Jacob Spener. Et ce pasteur, donc, il va être nommé à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Et on sait que c'est dans ces réunions, voilà, Spener préconisait donc des contacts personnels avec un culte public, des réunions où l'on étudierait la Bible en commun, où l'on prierait ensemble. Et ces groupes de maisons, voilà, qui se sont développés dans cette région, apportèrent vraiment de riches bénédictions. On sait que depuis, il y a des assemblées de réveil qui sont implantées justement sur ce lieu-là. Déterminé vraiment qu'il était, Spener a encouragé cette vie de piété, d'où le piétisme. Il a fondé une université en Allemagne, à Halle, un grand centre universitaire de piétisme. Et là, on va former de nombreux, des milliers de pasteurs réveillés. Ce piétisme, il donna aussi lieu à un magnifique effort missionnaire. L'université de Halle envoyait à travers le monde des serviteurs qui avaient un grand zèle et une grande piété. Je voudrais m'attarder pour terminer sur ce qui s'est passé en France, revenir en France pour terminer avec le réveil des Cévennes. Donc le réveil des Cévennes, c'est vraiment en France qu'on a connu des persécutions sanglantes, on l'a vu à travers tout ce qui était partagé ce matin. Et Louis XIV ainsi que Louis XV, qui étaient tous les deux descendants de Henri IV, furent les responsables de ce désastre et de cette, on pourrait dire, honte nationale. Donc je reviens un petit peu sur les dragonnades. Les dragons, en fait, c'était des soldats réguliers qui étaient envoyés chez des protestants qui devaient les loger à leurs frais. Et pendant la révocation de l'édit de Nantes en 1685, eh bien, il y a eu donc tout cet exode de grande envergure de millions de personnes qui ont été obligées de s'exiler, mais qui ne pouvaient pas forcément quitter le pays. Donc beaucoup se sont cachés, se sont réfugiés dans les Cévennes, sont allés dans ces lieux de montagne où vivait déjà une importante population réformée. On pense qu'il y avait à peu près 90% de la population qui était protestante avant la révocation. Donc cette terre, elle avait déjà porté, elle avait déjà servi de refuge à de nombreux Vaudois, plus de 4 siècles auparavant. Donc vous voyez l'histoire, voilà, qui permet d'accueillir, il y a eu des mouvements, de beaux mouvements de réveil dans certaines régions, et après les persécutions, on revient dans ces régions, et à nouveau, on va voir ce qui s'y passe. Ces croyants réformés étaient très nombreux dans le Dauphiné, en Languedoc, dans le Vivarais, dans la région de Nîmes, qui était surnommée la Genève française, la région de Nîmes, parce qu'elle comptait environ 20 000 habitants à cette époque-là, et on sait que dans ces régions-là, voilà, il y avait beaucoup de protestants. Après des années de restrictions, de dragonnades en France, à travers toute la France, donc on voit arriver à nouveau dans cette région des Cévennes de nouveau des dragonnades qui sont organisées. Elles sont commencées dès 1881 et on a un jeune avocat, donc je vous cite quelques personnes qui sont importantes par rapport à ce mouvement, qui s'appelait Claude Brousson. Lui, il va concevoir un plan de résistance pacifique, calme, mais décidé pour garder les cultes et les réunions d'une façon paisible, mais bien sûr en dehors des temps classiques, c'est-à-dire à l'aube, dans les bois, dans les montagnes. Et c'est comme ça que voilà, va naître la première assemblée du désert. En 1683, on sait qu'il y aurait eu 3000 à 4000 réformés qui se retrouvaient dans un champ à l'aube. Et puis le 3 octobre 1683, ce sont les dragons, donc les fameux soldats du roi, qui entrent dans les Cévennes. Alors ils avaient comme mission de pousser les réformés à abjurer le protestantisme par tous les moyens. Donc, comme ils logeaient chez l'habitant, qu'ils étaient à la charge des villages, des communautés, bah, ils poussaient les habitants à bout. Ils détruisaient le mobilier des maisons, ils les empêchaient de dormir. Voilà, ils utilisaient toutes sortes de choses pour mettre les gens à bout. Leurs meubles étaient vendus, tout était détruit, pillé. On les surnommait les missionnaires beauté. Et ils se comportaient de façon ignoble. Les dragons, c'est qu'ils saccageaient tout, qu'ils brisaient les armoires, qu'ils... voilà, je vous ai donné plein de détails. Parfois même, ils entraient à cheval dans les maisons. Et ils cassaient tout, voilà. Ils effrayaient les enfants, les femmes, etc. Mais on sait que les Cévenols n'abjuraient pas. Parce qu'en fin 1684, dans toute la ville d'Anduze, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, on sait qu'il y avait encore 3500 réformés. Et il n'y avait eu que trois abjurations. Celle d'une veuve, d'une jeune fille et d'un baron étranger de la région. Donc voilà, on a des témoignages précis. Mais malheureusement, de nombreuses maisons étaient brûlées, des granges étaient fouillées pour trouver des bibles. Et les bibles étaient brûlées par les dragons dans des feux de joie. Et on peut rappeler donc à ce moment-là que tous les temples réformés devaient être détruits. Et qu'à ce moment-là, plus aucun temple protestant n'était autorisé. On n'autorisait plus aucun rassemblement. Donc les pasteurs, ils devaient abjurer. Ou alors, ils avaient 15 jours pour quitter le pays. Et on précise en laissant leurs enfants âgés de plus de 7 ans. Mais ils n'avaient plus le droit d'exercer la moindre prédication, exhortation. Les enfants des réformés devaient obligatoirement être baptisés catholiques par des prêtres et devaient être élevés dans la foi catholique. Voilà, on raconte qu'on les emmenait de force et puis qu'on les mettait à genoux de force dans les églises catholiques pour qu'ils se convertissent. Ceux qui avaient réussi à s'échapper de la France devaient rentrer dans les 4 mois, sinon on confisquait tous leurs biens. Mais on sait que beaucoup de Cévenols tenaient bon. Même si on décrit beaucoup de tortures, voilà, avec de l'eau bouillante, de l'eau, la faim, la soif, des coups de toutes sortes, des humiliations, on sait que voilà, ces groupes de Cévenols tiennent bon. Ils refusent de trahir leur conscience, d'abjurer. Et certains, donc, quand même, réussissent à s'exiler. Malgré le fait que les frontières, elles étaient vraiment étroitement surveillées, les frontières maritimes et terrestres étaient très surveillées, justement pour les empêcher de quitter le pays. Et c'est alors que, au mois d'octobre 1584-85, éclata le réveil des Cévennes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle de réveil? Il n'y avait plus de pasteurs, puisque les pasteurs étaient interdits. Donc il y avait des personnes qu'on a surnommées des prédicants, qui se mirent à prêcher, comme ça, clandestinement, dans les assemblées, dans les villages, dans les forêts, partout. Et ces prédicants, ils ont donc assuré, du jour au lendemain, sans avoir été préparés, le ministère des pasteurs qui n'était plus là. Et très rapidement, on sait qu'il y a eu plus d'une soixantaine de prédicants. Ces prédicants, on sait qu'il y avait des artisans, qu'il y avait des tisserands, des bergers de moutons, des gardiens de chèvres. Voilà, c'est un petit peu dans tous les métiers qu'on trouvait ces prédicants qui se sont levés pour remplacer les pasteurs. Et puis, ils vont se faire élire, choisir par le peuple, après avoir passé une sorte d'examen public pour faire la preuve qu'ils étaient qualifiés dans le ministère. Certains prédicants sont restés célèbres. François Vivant, instituteur âgé d'une vingtaine d'années, un ancien avocat nîmois, Claude Brousson, qui avait 38 ans au moment de la révocation et qui va, lui, quitter la région et s'installer en Hollande. Mais la plupart de ces prédicants ou prédicantes mourront vifs ou pendus. Mais c'est pendant un certain hiver de 1685-1686 que des Cévenols entendent, venant du ciel, un chant, ça venait du ciel, un chant, le chant des psaumes, une sorte de plainte sourde et longue qui descendait du ciel avec le bruit d'un roulement de tambour, de son de trompette céleste, des phénomènes inhabituels, spirituels, qui se répandaient comme ça dans plusieurs endroits en même temps, dans le sud de la France. Et puis un mouvement prophétique en même temps commença à se développer en France et à se répandre. On a des témoignages qui racontent ce qui s'est passé. Donc ici, je vais vous en lire un ou deux. Par exemple, il est écrit « Nous voyons des choses étranges dans tous les endroits des Cévennes. On entend chanter de nuit les psaumes en l'air, donc dans le ciel, comme si c'était dans un temple. Mercredi dernier, j'étais couché dans ma chambre et environ à minuit, j'entendis sur le couvert, sur le toit, une voix éclatante qui m'éveilla et ensuite 5 à 6 voix qui lui assistèrent et chantèrent 5 à 6 versets du psaume 5. Tous ceux de la maison l'ont oui plusieurs fois et cela a été oui par tout notre pays. Donc malgré ces manifestations, malgré les persécutions, l'onction du Saint-Esprit va continuer de se déverser. On va parler des petits prophètes, on va utiliser l'expression des petits prophètes, parce qu'ils se déplaçaient en groupe, ils travaillaient en équipe, ils se multipliaient, et comme le dit la parole de Dieu, les assemblées, elles étaient édifiées, elles étaient encouragées, elles grandissaient, elles augmentaient considérablement en nombre. Ce qui est surprenant dans ce mouvement, c'est que des bébés de 9 mois, et ça apparaît dans les témoignages, hein, on dit qu'ils étaient à la mamelle, donc ils étaient encore allaités, ils prophétisent dans leur berceau. Donc, des milliers d'enfants, parfois âgés de 3 ou 4 ans, tombent en extase. Donc les adultes les voyaient. Au cours d'une même assemblée, on entendit plus de 15 ou 20 prophètes et prophétesses. Une armée de prophètes jaillit des montagnes, des Cévennes. Les vallées fourmillaient de ces prophètes. On raconte qu'un des premiers prophètes à se lever dans les Cévennes fut un jeune laboureur qui était illettré. Et il s'appelait donc Daniel Raoul. Et comme Élisée, il quitta sa charrue pour convoquer au désert les gens de la région d'Uzès et il voulait leur annoncer l'évangile. On dit qu'il prêche avec une telle véhémence le retour à la parole de Dieu contre les abominations de l'Église catholique que les gens, en l'entendant, ils tombaient face contre terre en demandant grâce à Dieu. Je voudrais encore vous citer un autre exemple. Voilà, on dit que dans ces régions des Cévennes, pendant cette période, il y avait des visions des anges, des interprétations de langue, des paroles de connaissance, des chutes dans l'esprit, des tressaillements, des feux, des lumières qui venaient du ciel. Toutes sortes de choses miraculeuses, des miracles de puissance, des cieux ouverts. Un enfant de quelques mois à la mamelle qui d'un seul coup se met debout dans son berceau et qui prophétise en un français excellent et qui cite la Bible. Les témoignages étaient très nombreux. Aussitôt, nous courûmes tous. L'enfant âgé de 13 à 14 mois était emmailloté dans le berceau. Il n'avait encore jamais parlé de lui-même, ni marché. Quand j'entrais avec mes amis, l'enfant parlait distinctement en français, d'une voix assez haute, vu son âge, en sorte qu'il était aisé de l'entendre par toute la chambre. Cet enfant exhortait, comme les autres que j'avais vus dans l'inspiration, à faire des œuvres de repentance. Et puis il dit encore, j'ai beaucoup entendu parler d'un autre petit enfant à la mamelle qui parlait aussi à Dieu dans le Dauphiné. Donc on voit une magnifique vague prophétique qui va se répandre, donc en particulier de 1686 à 1702. Et puis à partir de 1702, on sait aussi qu'il y a eu certaines déviations qui vont se glisser et pousser certains Cévenols à une violence armée. Donc la bonne vague prophétique va durer encore quelques années, mais le réveil va s'arrêter parce que les assemblées ne se structurent pas et ne se multiplient pas. On sait que pendant cette période, il y avait donc d'abondantes paroles de connaissances, de grandes précisions, qui provoquaient la repentance des participants aux assemblées. Il y avait vraiment beaucoup de conversions réelles à Jésus-Christ, et les gens étaient informés par révélation de traîtres ou de gens qui allaient arriver pour arrêter ceux qui se réunissaient pour prier. Des péchés précis étaient amenés à la lumière, et cela provoquait des changements de vie durables. Pendant toute cette période de réveil du désert, souvent on ne parle pas des femmes, mais là les femmes, elles ne se contentaient pas de cacher des Bibles, elles sont devenues des véritables leaders spirituels pendant cette période du désert. Je vous ai cité trois personnes, parce qu'ils ne se méfiaient pas des femmes, parce qu'ils pensaient que rien ne pourrait venir des femmes, ils ne se méfiaient pas. Donc je vous ai cité Isabeau Vincent, c'était une bergère de Saoul. Et à 17 ans, elle est une des premières, on dit, à tomber en extase. Bien qu'illettrée, elle prêchait en français durant son sommeil, elle. Elle prêchait en français pendant son sommeil. Marie Durand, bien que ce ne soit pas une prophétesse, elle représente le réveil, la ténacité, parce qu'elle a été enfermée pendant 38 ans dans la fameuse tour de Constance. Et on voit gravé donc sur une pierre au sol "Régister", qui veut dire résister. Elle est devenue vraiment, alors l'icône c'est un peu fort, mais voilà, elle est vraiment devenue la représentante, celle qui refuse de se battre, de s'éteindre. Et puis il y avait des catégories qu'on appelait les trembleuses. Alors il s'agissait de femmes qui étaient souvent touchées par des phénomènes d'inspiration et que les autorités surveillaient de près. Mais ils les surveillaient moins que les hommes, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils pensaient que les femmes étaient inoffensives. Donc ils ne s'en méfiaient pas. Mais le souci, c'est qu'à partir de 1702, certains Cévenols, qui étaient fatigués de toutes ces atroces persécutions, un groupe donc de Cévenols, pas tous les Cévenols, mais voilà, se sont révoltés. On les a appelés des Camisards. Et ils vont prendre les armes. Et ils vont... répartis en groupes, ils vont agir à plusieurs endroits différents. Les Camisards exécutent même les protestants qui étaient devenus persécuteurs. Ils massacrent des convois royaux, ils pillent des entrepôts, voilà, ils brûlent des châteaux, ils brûlent des églises catholiques. Durant cette guerre, plus de 80 prêtres seront égorgés, environ 240 églises catholiques seront pillées et brûlées. Les Saintes Écritures étaient tordues, mal appliquées. Les prophéties, à la fin de ce mouvement, étaient très mal interprétées. On les gérait mal, toutes ces prophéties. Les pasteurs n'étaient plus là pour enseigner, pour conseiller les gens, pour diriger le troupeau, et donc discerner toutes ces manifestations, c'était compliqué. Et pourtant, on sait bien sûr qu'il est évident que ni la Bible, ni le Saint-Esprit ne pouvaient et ne peuvent encore être d'accord avec ce programme. On peut juste dire que finalement, il n'y a qu'une partie de la population des Cévennes qui décida de prendre les armes. Peut-être 1500 Camisards, peut-être 2000 à certains moments. Voilà, pendant environ 2 ans, l'administration royale va s'affoler. Les armées de Louis XIV, qui étaient très très nombreuses, ne savent plus par où vaincre ces Camisards et seront battus à de nombreuses reprises. À ce moment-là, les prisons sont remplies de protestants. Certaines de ces prisons, où de nombreux frères et sœurs ont la foi souffrir, et pour beaucoup, certains sont morts, ces prisons devenaient tristement célèbres. Le château d'If en face de Marseille, ou encore la tour de Crest, où était enfermée Isabeau Vincent, ou encore la fameuse tour de Constance à Aigues-Mortes, où cet endroit donc était réservé aux femmes et où un grand nombre de femmes périrent. Je vous ai recité donc à nouveau Marie Durand, qui sur sa margelle en pierre a donc elle-même gravé le mot d'ordre résister, régister. Il fallut donc attendre le 17 novembre 1787. Et l'édit de tolérance signé par Louis XVI pour que soit seulement accordé aux protestants le droit de célébrer leur culte, mais aussi les droits qui étaient liés à l'enregistrement des naissances, des mariages, des décès, seulement à cette date-là. Donc tous les droits des métiers, les protestants peuvent à nouveau occuper des emplois publics. Mais voilà, la période se termine, on est à la veille de la Révolution française. Donc en conclusion, on peut dire que le protestantisme, il apporta vraiment, entre autres choses, au peuple français, vraiment la notion de liberté, la notion d'égalité, de fraternité, ben oui, c'est notre devise aujourd'hui. Il prépara la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Jean-Jacques Rousseau déclara dans le contrat social que la Révolution, dans ce qu'elle a d'excellent, est fille du protestantisme. J'ai presque terminé. Je voudrais vraiment, en conclusion, vous montrer qu'on a vraiment voyagé rapidement. Aujourd'hui, à travers le temps, hein, un espace immense entre le Moyen-Âge et puis, parfois on appelle ça l'époque moderne en histoire, donc le XVIe, XVIIe siècle. Nous avons vu comment, dans la période sombre du Moyen-Âge, il y a toujours eu une petite étincelle de vérité, hein, qui a toujours réussi à garder, à allumer un feu. On a vu aussi que Martin Luther n'a pas seulement affiché des papiers sur une porte, il a rappelé au monde que la grâce de Dieu, c'est un cadeau, que ce n'est pas une marchandise, et que l'Évangile, c'est le vrai trésor de l'Église, et le seul trésor de l'Église. L'histoire de la Réforme nous enseigne que sur chaque génération de disciples, on peut se poser la même question. Sur quoi repose mon assurance devant Dieu? Est-ce que c'est sur mes efforts, mes traditions, mes bonnes actions? Ou est-ce, comme Luther l'a découvert, sur la seule fidélité de Christ? En repartant, en fin d'après-midi, après le partage sur les finances de Pierre, souvenez-vous que vous n'avez rien à acheter pour être aimé de Dieu. Vous êtes libre. Que cette liberté, elle vous donne le courage de servir les autres cette semaine, non par peur, mais par reconnaissance. Je vous encourage donc à aller dans cette voie, dans cette paix. Je termine par la phrase de Luther. Ici, je me tiens. Je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. Et je vous encourage à être, vous aussi, des disciples qui savent où ils se tiennent dans leur foi. Alors, plutôt que des questions, puisque Mélanie a beaucoup insisté sur le fait de vous évaluer, de savoir où vous en êtes par rapport à l'enseignement, vous avez dans dans le dernier petit fascicule un quiz en 10 questions qui récapitule un petit peu tout ce que l'on a vu ensemble. Et je vous propose de le faire peut-être oralement ensemble. Et peut-être lever la main spontanément pour proposer les réponses de ces questions. Ça sera donc un moyen pour nous de terminer avec récapitulant sur ce qu'on a retenu sur cette histoire de l'Église au Moyen-Âge et la Réforme. Alors, la première question, est-ce que tout le monde a trouvé? Alors, on commence. Quel événement de 1054 a marqué la première grande division de la chrétienté? Il y a 4 propositions. Le grand schisme d'Orient, l'appel à la première croisade, la chute de l'Empire romain ou la réforme protestante. Ah, vous êtes visiblement unanime. Ah, c'est bien le grand schisme d'Orient, puisque cet événement, il va marquer la séparation définitive entre les deux églises, l'église catholique à Rome et l'église orthodoxe qui était fixée à Constantinople. Deuxième question qui porte sur le Moyen-Âge, qui va vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu ce matin. Quel était le rôle principal des monastères durant les âges sombres du Moyen-Âge? Est-ce que c'était plutôt d'organiser des armées pour les croisades, de gouverner les royaumes à la place des rois, de préserver la culture, l'éducation et les manuscrits bibliques, ou plutôt de vendre des indulgences à travers toute l'Europe? C, lever la main pour ceux qui pensent que c'est la C. Donc il y en a qui n'ont pas levé la main, voilà. Donc c'est bien la C, effectivement, parce que les moines, ils ont joué un rôle crucial. Ils ont conservé le savoir et la parole de Dieu. La question 3. Quel précurseur de la réforme est surnommé l'étoile du matin pour avoir traduit la Bible en anglais au XIVe siècle? Jean Hus, Pierre Valdo, Erasme ou John Wycliffe? C'est la D, vous avez raison, c'est bien John Wycliffe. Moi, je pense que ça démarre fort, là. Hein, les récompenses sont là ou pas? Non, bon, c'est pas grave. Donc, c'était bien John Wycliffe. Wycliffe, voilà, si on le dit en anglais, voilà, je le prononce très mal, pardon. Il a prôné la suprématie de l'écriture, il a permis la diffusion en langue populaire anglaise. La question 4. Qu'est-ce qui a déclenché l'affichage des 95 thèses par Martin Luther en 1517? Moi, j'ai même pas besoin de lire les propositions. Vous êtes tous d'accord avec le sacre de Charlemagne, du coup? Non? Ah! Donc, c'est bien, là, c'est le commerce des indulgences. C'était vraiment oui, ce qui le perturbait. Alors, les cinq solas, la question 5, donc vous aurez aussi dans votre... Les cinq solas affirment que la Bible est la seule autorité suprême pour le croyant. Est-ce que c'est sola gratia, sola Christus, sola scriptura? Parce que la scriptura, c'est la bonne réponse. Donc les écritures, effectivement, le principe qui place l'écriture au-dessus des traditions humaines et des décisions des papes, par exemple. Alors, le réformateur qui est principalement associé, la question 6, à la ville de Genève, qui a rédigé un ouvrage, l'institution de la religion chrétienne. C'est donc la C, Jean Calvin. Voilà, bah vous savez tout. Hein, vous avez bien tout mémorisé, bravo. C'est donc Jean Calvin, effectivement, qui a transformé Genève, on l'a vu, en un centre de la réforme, qui a structuré toute la théologie réformée par ses écrits. Que signifie l'expression « sacerdoce universel » redécouverte par la réforme? Le A, que chaque croyant est un prêtre et peut s'approcher de Dieu directement. Oui, effectivement, parce que cela va abolir la barrière entre le clergé et les laïcs dans l'accès à Dieu et au service. Donc voilà, vous savez beaucoup de choses, vous avez retenu beaucoup de choses. On passe aux deux dernières, questions. Quel est l'événement de 1572 qui illustre la violence des guerres de religion en France? C'est bien sûr le massacre de la Saint-Barthélemy, où je suis passée très très rapidement. Ce n'est pas le Concile de Trente. La question 9, lequel des cinq solas affirme que le salut est un don entièrement gratuit qu'on ne peut mériter? Unanimité sur donc la A, sola gratia, la seule grâce. La grâce seule signifie que l'initiative du salut vient de Dieu, sans mérite humain. Je pense qu'il y en a qui parlent le latin maintenant couramment. La dernière question, que signifie la devise Ecclesia Reformata Semper Reformanda? L'Église réformée doit toujours se réformer selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit toujours se réformer encore aujourd'hui et que la parole de Dieu, elle est là pour nous aider à nous réformer ?